Voilà, et pour parler de ce programme riche, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Antonin Bergeau. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Prix du meilleur jeune économiste 2025 et professeur associé à HEC. Face à vous, Olivier Garnier. Bonjour Olivier.
Bonjour Raphaël.
Qui a quitté récemment la Banque de France comme chef économiste et qui est désormais expert associé à l'Institut Montaigne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Artus.
Bonjour,
bonjour Patrick. Économiste et conseiller économique de la société de gestion Ossiam. Allez, je voulais qu'on parle à chaud, là, à vif, des dernières statistiques publiées ce matin par l'INSEE avec ce chiffre. Olivier, je commence avec vous. On pensait que la croissance avait stagné au premier trimestre. Finalement, l'économie française s'est contractée de 0,1 point. Et on voit que les indicateurs, hein, quand on parle de consommation ou d'inflation au deuxième trimestre, peuvent présager à nouveau d'une contraction de l'économie française. Donc la question, elle est simple ce matin. Est-ce qu'on est en train d'entrer en récession ?
Alors, je crois que au-delà de la décimale, de savoir si on a 0, moins 0,1, ce qui est clair, c'est qu'il y a un net changement de vitesse de l'économie française. C'est-à-dire qu'on était plutôt avant sur un rythme proche de 1%. Maintenant, on est autour de 0.
On est à 0.
Comme vous l'avez dit, le deuxième trimestre s'annonce pas très bon. On a vu dans les enquêtes, même si le mois de mai est difficile à lire en raison des jours fériés, des ponts, mais il a été mauvais, notamment dans les services, parce que c'est une surprise. C'est plutôt les services pour le moment,
oui.
Et non l'industrie manufacturière, qui sont les plus touchés.
Oui. Qui résiste plutôt bien à l'industrie, étonnamment. Hein.
Oui, alors elle est tirée, notamment, il y a des facteurs type la défense qui joue. Mais donc, on a clairement un changement de vitesse qui correspond au choc, puisque c'est vrai qu'il y en a eu un choc négatif de termes de l'échange important, donc oui. qui survient après déjà d'autres chocs importants. Donc maintenant, c'est un peu combien de temps va durer ce choc qui va déterminer un peu la suite au deuxième semestre.
Patrick, on rentre en récession, combien de temps ça va durer ?
Moi, je crois qu'on a sous-estimé collectivement l'effet de la fermeture de Détroit d'Hormuz. Ouais. Il n'y a pas qu'un effet sur le prix du pétrole et du gaz.
Ah oui.
Il y a un effet d'abord sur le volume disponible, et puis il y a des effets sur des prix de plein d'autres biens.
Et on pensait que cette guerre durait 4 à 6 semaines, terminerait fin avril, et puis on voit qu'on
y a encore. Si vous regardez les prix des engrais, ils ont augmenté de 75% depuis février, les prix du plastique de 40%, etc. Donc c'est un choc d'offre négatif, mais pas seulement sur les utilisateurs de d'énergie. C'est un choc d'offre dans plein d'industries, sur l'agroalimentaire, sur l'emballage.
Qui va se diffuser à l'ensemble de l'économie.
Voilà. Et donc on va avoir les effets d'un choc négatif d'offre. Ça veut dire une inflation en hausse. Alors, pour l'instant, l'inflation n'est pas très forte. Hein.
2,4%, nous disons.
Harmonisé européen, c'est 2,8%. Hein. Enfin, bon, oui. On voit qu'on est en pente croissante.
Et ça monte.
Et puis, on aura un choc négatif de. L'effet mécanique de la hausse des prix du pétrole et du gaz sur l'économie française, c'est à peu près un point de perte de revenus. Et comme on est très prudent pour le déficit public, on n'a pas du tout d'effet amortisseur de la hausse des dépenses publiques comme d'autres pays, par exemple, mm-hmm. l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc, ce choc passe complètement à l'économie.
Les moyens.
Donc, on va perdre un point de PIB, quoi, en gros. Hein. Donc, si on avait 1% de croissance...
La prévision officielle, je rappelle...
On a quand même des stabilisateurs 0,9. Automatiques importants, même si on n'a pas de mesures plus importantes que dans les autres pays européens.
Oui, mais on va les annuler. Apparemment, si on écoute le Premier ministre, on va annuler les stabilisateurs automatiques, puisqu'on va maintenir la prévision de déficit public malgré le ralentissement de la croissance.
Alors pour l'instant, c'est plutôt les entreprises hein, qui voient, par exemple, les allègements de charges gelés. Donc c'est eux qui prennent la note pour l'instant. Reste à voir ce qui se passera dans le prochain PLF. Je reste sur la conjoncture, Antonin Bergeau. Vous
non,
êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? C'est-à-dire que là, on entre vraiment en période de turbulence pour l'économie française ?
Oui, effectivement, on a une croissance potentielle qui est faible, donc tout choc nous fait passer rapidement en zone de récession. Et je pense qu'on a sous-estimé la fermeture du détroit d'Hormuz, enfin son effet, mais plus généralement, on a beaucoup sous-estimé l'effet d'un choc énergétique sur l'économie. Il y a eu en 2022 des économistes qui ont expliqué que ça allait avoir très peu d'impact parce l'Europe allait pouvoir substituer très rapidement du gaz à d'autres sources d'énergie.
Oui.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas été le cas. On a eu une récession en Allemagne et maintenant. Peut-être en France, on est beaucoup plus sensible au choc énergétique que ce qu'on peut prévoir parce qu'en fait, le réseau, la centralité du secteur énergétique est bien plus importante que ce qu'on a pu lire et le coût de la substitution est très élevé. Et aujourd'hui, avec le choc qui arrive et le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de politique pour protéger le consommateur d'une hausse des prix, comme on a pu le faire en 2022, effectivement, ça risque de se voir fortement sur la consommation.
Après, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de prix non plus que 2022-2023. On est revenu autour de 90-92 dollars, là, le prix du baril. Est-ce que c'est...
Puis le prix du gaz, le prix du gaz.
Massif,
aussi,
le prix du gaz n'a rien à voir avec ce qu'on a. Et on a des centrales qui fonctionnent.
Mais quand même, quand on regarde le prix des combustibles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, ils sont en hausse. Et le prix moyen des combustibles, on dirait, est en hausse de 50%. Et donc.
Sur les trois derniers mois,
oui. Oui, enfin, par rapport à janvier, février. Ouais, et donc, si ça dure six mois, ça fait 25% de. Donc, c'est quand même un gros choc de prix, quand même.
Bon, tout ça nous donne un contexte qui n'est pas très favorable à la prospérité et à la création de valeur. Et je voulais qu'on parle, la grande thématique de cette émission sera sur l'appauvrissement relatif quand même de la France. D'un côté, avec la hausse du SMIC au 1er juin, qui va faire basculer, c'est ce qu'on apprend ce matin dans les échos, 126 branches sous branches professionnelles, sous le salaire minimum, contre une trentaine aujourd'hui. Alors évidemment, les syndicats dénoncent une smicardisation progressive du marché du travail, mais de l'autre côté, il y a eu cette étude de l'INSEE, encore une fois, qui fait un travail formidable et qui révèle que plus de 6 personnes pauvres sur 10 restent pauvres l'année suivante. C'est-à-dire qu'on a allongé en fait la durée de pauvreté. C'est plus simplement un accident de parcours. Ça devient pour une partie de la population une situation durable. En réalité, question simple, réponse simple, est-ce que la France est en train de s'appauvrir, Patrick Artus?
Mais je crois qu'il faut regarder la cause profonde de ça. Moi, je répète dans cette même émission la même chose depuis longtemps, c'est que la cause profonde de ça, c'est la faiblesse du taux d'emploi. La pauvreté, c'est la non-appartenance au marché du travail, essentiellement.
Oui.
Et donc, si on avait un taux d'emploi comparable...
Mais qui est lié un peu avec le contexte macroéconomique,
qui est lié aux déficiences du système éducatif, qui est lié aux problèmes du système de retraite, aux règles du départ à la retraite. Donc, si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 12 ou 13 d'emplois en plus, hein, c'est monstrueux. Et donc,
avec quand même du temps partiel plus important en Allemagne.
Oui,
on peut
aussi
corriger l'écart. L'écart n'est pas aussi important parce qu'il y a beaucoup plus de temps partiel.
Oui, mais alors regardons les pays du nord de l'Europe. Et donc
Stéphane Carcillo nous disait hier que si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, c'était 140 milliards de recettes supplémentaires.
Oui, et donc on pourrait
Règle le déficit.
On pourrait faire les investissements nécessaires, on pourrait investir dans l'école. Et il y a un autre chiffre qu'il faut citer, c'est que les dépenses d'éducation de la France, quand vous enlevez les retraites des enseignants, elles sont anormalement faibles. Elles sont inférieures à 3 points de PIB, alors qu'elles sont autour de 5 points de PIB dans les autres pays. Et donc, si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on pourrait mettre l'argent nécessaire dans l'éducation pour augmenter les professeurs, pour réduire la taille des classes, tout ça dont on sait que c'est à la base de la mauvaise qualité du système éducatif.
Est-ce qu'on arrive encore à avoir un ascenseur social qui fonctionne par le travail, Olivier Gagné? On a l'impression que le travail ne paie plus en France.
Il y a quand même un petit paradoxe dans ce débat, parce qu'on relève le SMIC et après on parle d'appauvrissement. Donc là, on marche un peu sur la tête.
Mais parce qu'on a tout simplement un écrasement des salaires.
Non, mais il faut bien voir qu'on a un SMIC, on est les seuls en Europe où on a un niveau du salaire minimum qui est supérieur à 60% du salaire médian et supérieur à 50% du salaire moyen. Et donc, on l'a déjà vu dans le passé, mécaniquement, quand on augmente le salaire minimum davantage que les autres salaires, là, on parle de smicardisation, mais c'est tout simplement parce que on augmente le SMIC. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet, surtout que, comme l'a dit Patrick, la pauvreté, c'est d'abord... La pauvreté, elle vient du fait des gens qui sont sans emploi, des familles monoparentales. Vous citez l'étude de l'INSEE, elle le met aussi clairement en évidence. La pauvreté, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on vit bien au SMIC, mais la première cause de pauvreté, c'est pas les gens qui ont un travail payé au salaire minimum. Il faut bien replacer les choses. Et deuxième remarque sur cette idée... Il suffirait, et on aurait le même taux d'emploi que l'Allemagne. Il faut voir aussi que pour passer à ce taux d'emploi, souvent on est obligé de faire beaucoup de dépenses publiques. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent dans le système français, en tout cas, puisqu'on a plus de 70 milliards d'allègements des charges sur les bas salaires, qui ont une certaine efficacité, qui ont permis d'augmenter le taux d'emploi. Mais pour augmenter davantage le taux d'emploi, si ça passe encore par des allègements de charges ou par d'autres mesures, dans ce cas-là, on n'aura pas les recettes que vous évoquez. Donc, il faut se méfier des recettes miracles.
Il y a un sujet autour de cette indexation automatique. Il y a quand même une réflexion à mener. Là, le patronat, tous les chefs d'entreprise sautent au plafond sur le gel des allègements de charges qui sont indexés sur la hausse du SMIC, puisqu'ils doivent à la fois augmenter leurs salariés et en même temps, ils voient leurs charges, leurs allègements ne pas augmenter. Est-ce qu'il faut revoir tout ce système, Antonin Bergeau? Je vais même vous poser une question provoque. Est-ce qu'il faut arrêter d'indexer le SMIC sur l'inflation?
Alors, il est indexé automatiquement, mais quand même à une recommandation d'un comité d'experts qui peut aussi décider de pas l'indexer ou de recommander de pas l'indexer. Donc, c'est pas complètement automatique. Je pense que le problème, effectivement, du SMIC, c'est qu'il augmente indépendamment de la productivité des travailleurs à ce niveau de salaire. Donc, il est clairement probablement trop élevé, en tout cas au regard du niveau de productivité. Et donc, forcément,
je crois qu'il a augmenté de 26%. J'ai vu ce chiffre, 26 ou 28% de plus que l'augmentation de la productivité ces dernières années.
Voilà, donc l'écart.
C'est soutenable
entre les deux
économiquement,
doit se payer,
ça ou pas?
Ça se paye quelque part. Donc, soit sur effectivement les autres salaires, les salaires plus élevés, qui eux vont du coup stagner, puisqu'il faut que ce soit compensé d'une manière ou d'une autre, ou alors dans les performances de l'entreprise. Et donc ça, c'est un problème d'un point de vue de la logique économique, mais surtout ce que ça a créé pour revenir à la question de la mobilité sociale, des inégalités tout au long de la vie, c'est que ça l'a réduit fortement. Et ce qui était quelque chose sur lequel la France se caractérisait plutôt positivement quand on regardait les inégalités tout au long de la vie, en fait, elles étaient...
La hausse automatique du SMIC sur l'indexation réduit les écarts de niveau de vie.
Ça fait moins progresser les salaires et donc nécessairement ça vous donne moins de mobilité sociale quand vous êtes en emploi. C'est encore pire quand on n'est pas en emploi par ailleurs, je suis d'accord que c'est tout ça le sujet de la pauvreté, mais même en emploi on stagne. Cette stagnation, elle se voit en plus sur le salaire net, pas forcément sur les salaires super bruts, donc ça qui continue à augmenter. Donc en plus, le coût du travail, lui, ne stagne pas. Et donc, évidemment, ça pose un tas de problèmes. Et là où la France se caractérisait comme un pays avec peu d'inégalités statiques, c'est-à-dire en photographie à un moment donné, et aussi dynamique, c'est-à-dire tout au long de la vie, maintenant, on a toujours relativement peu d'inégalités statiques après transfert, mais on a perdu, du fait de tous ces transferts et du fait des politiques qu'on a mis en place, on a perdu cet aspect progression salariale et donc dynamique des inégalités.
Non, mais c'est terrible ce que nous explique Antonin Bergeau là, Patrick Artus, c'est grosso modo, on est tous égaux dans la pauvreté. Pardon, je résume de manière un peu brutale, mais c'est quand même un peu ça. Si on avait suivi, on m'a communiqué cette donnée ce matin, mais si on avait connu depuis l'an 2000 les mêmes gains de productivité qu'aux États-Unis, c'est un véritable sujet aussi, le salaire net médian en France serait de 3 300 euros par mois. Et pas de 2 200. Ça reflète bien ce que dit Antonin, là.
Oui, mais l'absence de gains de productivité en France, c'est y a plein de causes. Il y a les compétences. On a des compétences faibles de la population. La masse de jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification... On a un taux de NEETS qui est extrêmement élevé.
Oui.
Hein.
Sans formation, sans emploi.
L'insuffisance des dépenses de recherche-développement des entreprises. Les entreprises françaises dépensent en R&D pratiquement la moitié par rapport à leur valeur ajoutée des entreprises américaines. Donc ça s'explique assez bien. Mais alors, il y a un cercle vicieux. Donc, vous n'avez pas de gain de productivité. Donc, vous pouvez simplement maintenir le pouvoir d'achat. Et donc vous avez... Mais bon, deux brèves remarques. On a des travaux de l'INSEE extraordinairement intéressants sur la mobilité sociale intergénérationnelle.
Oui. Hein.
Et on voit que à moins de 30% des Français ont une mobilité sociale ascendante par rapport à leur père.
Et donc c'est moins de 30%, d'un Français. Voilà.
Donc les 70% autres, soit régressent, soit sont dans le même niveau de social que leurs parents. Et donc on a vraiment une immobilité sociale. Et alors une cause très importante, c'est le système éducatif, parce que vous avez des données de PISA ou de TIMSS qui montrent que la France est vraiment le record de la reproduction du statut social des parents dans les difficultés scolaires des enfants. Les enfants qui ont des très mauvaises notes TIMSS ou PISA, TIMSS c'est l'enquête sur le niveau en maths,
oui. Hein,
sont très majoritairement des enfants de classes défavorisées. Et donc vous reproduisez le statut social des parents par l'école, l'école, et du coup vous n'avez pas de mobilité sociale ascendante.
Olivier, puis Antonin.
Deux remarques sur les gains de productivité. Première remarque, une partie de la faiblesse de nos gains de productivité vient justement de l'augmentation du taux d'emploi qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Puisque quand vous mettez au travail
notamment au niveau des
gens
des bas salaires,
qui sont peu qualifiés,
et, oui.
Et donc c'est bien de
c'est
le faire.
C'est aussi la résultante des allègements de charges. Ça a très bien fonctionné
zéro,
pour le coup.
Maintenant, ils produisent, mais ça fait baisser la productivité moyenne. Et deuxième remarque, vous citez les États-Unis. Aux États-Unis, certes, il y a eu des gains de productivité très importants, mais ça ne s'est pas beaucoup répercuté sur le salaire de la grosse partie de la population.
Oui, on avait la fameuse courbe en cas.
La courbe en cas et une augmentation, on voit encore dans les derniers chiffres
qui sont sortis sur le premier trimestre,
une augmentation des marges des entreprises très importante. Donc la liaison n'est pas complètement automatique.
Oui, Antonin.
Je voulais juste revenir sur la mobilité sociale internationale, parce que je pense que c'est un sujet qui est un peu ressorti du débat, donc qui va peut-être revenir avec ces études, mais qui est quand même très très important. Et on a fait une enquête avec Yann Algan, qui je crois l'a présenté ici il y a quelques semaines.
Oui, absolument.
Et ce qu'on voit, c'est que l'absence de progression salariale, et notamment quand on dit aux gens, on explique aux gens quels étaient le niveau de vie de leurs parents, leurs grands-parents par rapport à ce qu'ils vont connaître comme progression salariale, en fait, a un effet largement supérieur à tout le reste, y compris le niveau de salaire, sur tous les indicateurs négatifs de dépression, de confiance.
Sur l'espoir, et enfin, simplement sur l'espoir d'une vie meilleure, mais évidemment.
Et c'est ce qui explique le mieux le vote extrême parmi les... Alors, c'est que des travailleurs, là, mais qui sont très négativement impactés par l'idée que leur salaire va stagner, beaucoup plus que par le niveau, et même le niveau relatif. Donc, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, et c'est dommage que ce soit difficile à mesurer, ce qui fait qu'on en parle peut-être un peu moins. Mais ça devrait rentrer plus dans le débat, je pense.
Absolument. Et merci d'avoir réalisé ces travaux, Patrick.
Il y a un autre point qui est les allègements de charges.
Oui.
Donc il y a un article de Xavier Jaravel, qui est le président du CAE ce matin dans les Échos, qui est très intéressant, qui résume les travaux qui existent et qui montre ce que nous connaissons tous, le taux marginal massif d'imposition qui correspond à des hausses de salaire au-dessus du SMIC.
Et donc, on dit souvent que pour augmenter de 100 euros, il faut mettre 500 euros
voilà,
super bruit.
Et c'est à peu près 500 euros. Et en plus, Xavier montre que l'efficacité en création d'emplois est faible. Donc, on a un système d'allègement de charges qui est
jusqu'à un certain niveau, quand même.
Mais même
jusqu'à deux SMIC. On a eu ce débat hier sur le plateau des experts.
C'est pas évident.
Stéphane Carcillo lui dit 2 SMIC. Au-dessus, j'arrête les allègements.
Alors, d'abord, il y a des travaux qui disent effectivement 2 SMIC, au-dessus de 2 SMIC. Et puis, même en dessous de 2 SMIC, ça n'a pas l'air massif, quoi, l'effet de création d'emplois. Et donc, il va falloir vraiment réfléchir un reprofilage plus massif que ce qui a été fait récemment de systèmes d'allègement de charges, parce que c'est vraiment une trappe à bas salaire, quoi. Ça génère une trappe à bas salaire.
Ouais. On voit mal les voies et moyens de sortir de cette dynamique infernale qui fait qu'on est quand même englué dans ce système d'une France de smicardisation de la France, quoi, l'économie française. Il y a des solutions, on a des exemples d'autres pays autour de nous, en Europe, qui ont mis en place des réformes pour essayer de sortir de cette glue.
Mais je le répète, smicardisation, faut bien distinguer de smicardisation du débat appauvrissement. C'est deux choses différentes. Dans les autres pays, le niveau du salaire minimum est plus bas, même s'il a été, il y a eu des revalorisations importantes dans certains pays,
oui.
Mais il est plus bas. Donc, le SMIC n'a pas le même rôle dans les autres pays. Nous, on a... C'est ça toute la difficulté. Le système idéal, ça serait plus d'avoir un salaire minimum qui soit plus bas, puis après des minima de branche qui, eux, soient sensiblement au-dessus du salaire minimum.
Oui, là, c'est l'inverse.
Et ce qui jouerait un peu la voiture balai, c'est pas le salaire minimum qui, lui, serait plus une sorte de filet pour empêcher des abus.
Oui.
Et puis, ça serait les minima de branche qui, eux, devraient jouer un peu le rôle de voiture balai. Or là, c'est pas ce que l'on a dans le système actuel. Ce qu'il y a, c'est que maintenant,
126 branches professionnelles vont
difficile.
Se retrouver sous le niveau du SMIC.
Oui, mais ça, c'est pas normal que les niveaux des minima de branche soient en dessous du salaire minimum. Et en plus, ça leur donnait un moment un peu, ça leur permettait de bénéficier davantage des allègements de charges.
Bon, je voulais qu'on parle, il ne reste que 5 minutes avant la coupure pub, je voulais qu'on parle des comptes de la Sécu quand même. Tout ça est lié, hein, qui pèse évidemment, cette dette sociale, elle pèse aussi sur le salaire des actifs, puisque c'est le travail qui finance notre sécurité sociale. On va faire plus globalement. On a posé la big picture de l'économie française qui, franchement, ne se porte pas bien. On se dirige tout droit vers une récession technique. Est-ce qu'il va falloir ajuster notre trajectoire budgétaire à ce nouveau cycle économique? Je rappelle qu'on doit passer sous les 5% de déficit, mais la perspective de croissance est de 0,9% officiellement pour l'instant, Patrick. Est-ce que les chiffres qu'on a développés là imposent une révision de notre trajectoire?
Malheureusement, on n'a pas le système suédois. En Suède, on doit avoir un budget équilibré calculé sur un cycle économique. Ce qui permet de faire des déficits publics très importants quand ça va mal, et puis de revenir à l'équilibre quand ça va bien.
On a des lois de programmation.
Ou même de revenir à un léger publics. Excédent quand ça va bien. Oui, mais enfin, c'est jamais appliqué. Et donc, on sait que probablement, que compte tenu de la révision de la croissance et des aides diverses, on va, spontanément, on aurait un déficit public d'au moins 5,5% du PIB en 2026. Et donc, la trajectoire de retour à 3% en 2029 est monstrueuse, quoi. Ça fait plus d'un point de PIB par an.
Vous nous dites qu'on va pas y arriver.
Ah bon, c'est impossible. C'est impossible d'imaginer qu'on améliore le déficit d'un point de PIB. Et en plus, à 3 points de PIB, le taux d'endettement public continue à augmenter parce que malheureusement, le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, quoi.
Ah oui. Donc c'est même pas stabilisé. Traditionnellement.
Non. Stabiliser, il faut deux.
Stabiliser,
il faut 2% de déficit public.
Ah oui. Donc, Antonin Bergeau, on n'est pas prêt de voir la dette.
Non,
mais c'est reculer, ça c'est une certitude, mais même arrêter d'augmenter.
Alors, c'est la difficulté d'avoir fait une trajectoire ou d'essayer d'anticiper une trajectoire budgétaire sur 5 ans ou 7 ans, indépendamment du cycle, parce que, évidemment, quand vous avez un choc négatif, vous êtes obligé de dévier, mais comme vous avez une trajectoire déjà ambitieuse, vous respectez pas la trajectoire, en plus qui crée un effet de réputation qui rend tout plus difficile.
Je rappelle que Standard & Poor's doit revoir la note française ce soir.
Voilà, et une hausse des taux d'intérêt sans hausse du taux de croissance, effectivement, rend la cible de déficit primaire nul, qui était la cible annoncée, encore plus difficile à atteindre. Donc, sans doute qu'on n'y arrivera pas, en tout cas, à cette cible de déficit primaire nul, qui est la cible qui, enfin, pour l'instant, stabilisait la dette, en fait. C'est pour ça qu'on visait ce niveau. Si on a une croissance qui n'augmente pas, ce qui est plutôt ce qui a l'air d'être passé, puisqu'on a dit tout à l'heure, et un taux d'intérêt qui monte, faut aller au-delà d'un déficit primaire nul. Et donc, il faut faire effectivement un effort encore supplémentaire.
Ce qui notamment sur la sphère sociale, je reviens sur les comptes de la Sécu.
La priorité, sans être trop technique sur les règles de gouvernance budgétaire européenne, mais on a pris un engagement européen, ça a été fixé par le Conseil. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois la dépense primaire nette.
Oui.
Et en gros, ça revient à dire
qu'on doit piloter.
Ça a été fixé à 1,2%. Pour les années qui viennent. Et c'est une dépense, cette dépense-là, elle inclut, je dirais, que les dépenses sur lesquelles le gouvernement peut agir. C'est-à-dire qu'on exclut, par exemple, la partie indemnisation du chômage qui, elle, dépend de la conjoncture. Et puis, on retranche aussi si, par exemple, il y avait des mesures fiscales, on en tient compte aussi. Donc, la partie, je dirais, qui dépend de la conjoncture, elle n'est pas prise en compte.
Voilà.
Donc concrètement,
et là,
ça veut
piloter,
dire, en gros, c'est 1,2%, ça veut dire que c'est une augmentation de 20 milliards, et je crois qu'il faut s'y tenir, ce qui veut dire que si, par exemple, on fait des choses sur le chèque énergie ou autre, ça doit être gagé par des économies de dépenses ailleurs. Alors ça veut dire, là-dedans, on laisse jouer, s'il y a des effets stabilisateurs automatiques, ils jouent, mais en tout cas, ce qui est déjà important, c'est de tenir, quoi qu'il arrive, cet objectif, ne pas dépasser ce 1,2% de dépenses primaires nettes et donc de gager toute dépense nouvelle par des économies ailleurs. Ça, c'est le principe simple.
C'est un peu ce qu'on fait. Bercy a détaillé hier.
C'est ce que fait Bercy.
Et 6 milliards
et d'ailleurs, nous sommes engagés. Nous sommes en procédure de déficit excessif.
Oui.
Là encore, dans le jargon bruxellois. Donc, la priorité, c'est d'abord de respecter cette trajectoire de dépenses.
Et vu le contexte politique, Antonin, vous pensez que c'est
possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, le CAE a mis en ligne
Conseil d'analyse économique.
Oui, Conseil d'analyse économique, différents postes budgétaires et différentes réformes sur lesquelles on peut
une boîte à outils formidable.
Et vous voyez, si vous essayez d'arriver à 110, 120 milliards sans passer par la caisse sociale, c'est quand même très, très compliqué.
Eh oui, les caisses sociales qui, encore une fois, un dernier mot, Patrick, mais on est quasiment à 30 milliards en réalité. Si on enlève les transferts de l'État vers la Sécu, on est quasiment à 30 milliards de déficit de la Sécu. Je ne comprends pas comment, hors période de crise, on arrive à un tel déficit.
Mais d'abord, la sécurité sociale ne devrait pas se financer par la dette. C'est des dépenses courantes, c'est pas des dépenses d'investissement. Alors, il y a peut-être un petit bout qui est d'investissement.
Et là, on parle de dette perpétuelle maintenant. Enfin, la Cour des comptes évoque une dette perpétuelle sur le social.
Et ben, moi, je pense qu'il va falloir, à un certain moment, on aura une réforme de l'État à la suédoise. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire, on supprimera un niveau de collectivité locale, on aura un système d'agence qui fait qu'une instance publique s'occupera d'un problème et pas trois ou quatre instances publiques sur le même problème.
Vaste programme, nettoyer le millefeuille administratif.
Oui, oui. Non,
je salue votre optimisme.
Non, mais ça viendra parce que honnêtement, le déficit public, il va rester à 5,5% du PIB cette année et il sera à 5% du PIB et demi l'année prochaine. Et donc ça finira de mal. Enfin, les autres Européens finiront par pas accepter le caractère de passager clandestin de la France sur sa politique.
Vous pensez que ça finira mal, Olivier Garnier? On n'a jamais eu de sanction des marchés. En réalité, les taux restent quand même.
Non, mais c'est pas la sanction
on
des marchés.
On est protégé par l'euro.
Oui, mais c'est les autres Européens. Les autres Européens vont donc commencer à refuser l'anomalie française.
Bon, l'anomalie française, elle est d'abord sur le niveau de la dépense publique, puisque je rappelle qu'on a une dépense publique qui est supérieure à 57% du PIB, alors que la moyenne de la zone euro est à 50, et si on enlève la France, on est à moins de 50. Ce qui veut dire, et ça si on veut être optimiste, c'est de se dire, avec le même modèle social, nos partenaires européens ont 8 à 9 points de moins de dépenses publiques. Donc,
on parle quand même de près de, parce que les points de PIB, ça parle pas forcément à ceux qui nous écoutent, on parle de près de 300 milliards d'euros de dépenses.
Alors, ça doit pas se faire.
Et donc d'impôts en moins.
Bien sûr, c'est pas sur une seule année que ça doit se faire, mais ça peut se faire en gelant, par exemple, les dépenses publiques pendant un certain nombre d'années. Avec, ça suppose des redéploiements, des priorités. Donc, pour ça que ça doit se faire dans l'année, mais c'est le vrai débat qu'il faudra avoir dans le cadre des élections présidentielles.
Ouais. Mot de la fin, Antonin.
C'est 300 milliards de moins par rapport à la trajectoire. Donc, c'est pas des efforts 300 milliards
nominaux. Non, c'est pas de réduire. C'est limiter la hausse.
On va arrêter d'augmenter.
Bien expliquer. Arrêtons d'augmenter. Vaste programme. On verra si on y arrive dans le prochain PLF. À mon avis, c'est pas gagné. On se retrouve dans après une courte pause publicitaire. On va parler Europe. On va aller à Bruxelles qui tient aujourd'hui un séminaire, le Collège des commissaires, pour trouver les voies et moyens de lutter contre les surcapacités chinoises qui menacent évidemment le marché et l'industrie européenne. On va voir si finalement la solution, ça serait pas de faire venir les Chinois produire sur notre sol à nous. Et puis on parlera IA. Là, c'est plutôt comment lutter contre l'hégémonie américaine. Arthur Mensch, le patron de Mistral, a appelé hier à se mobiliser, que les grands donneurs d'ordre se mobilisent et choisissent des IA et de la tech européenne. On va voir ce qu'en pensent mes experts. On se retrouve dans une minute. À tout de suite.